Donc aujourd'hui, je vais essayer de ne pas casser le pupitre. Ah, quelques-uns, souviens-vous. La dernière fois, j'arrive à un moment pendant la prédication, quand je frappe, tac, il se fait tomber, tac, 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 tac. Je reste plutôt calme aujourd'hui. Peut-être, on verra. Donc la semaine dernière, dimanche dernier, notre pasteur Eric nous a donné un projet. Et c'était quoi? Faire des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, etc., etc., etc. Et même ce projet, ce n'est pas qu'un projet pour l'année 2016. C'est le projet que le Seigneur donne à tous les chrétiens. Pour nous tous. Mais afin de faire des disciples qui feront des disciples, il faut que nous soyons, on peut dire, en feu pour Dieu. En feu bouillant. Avec une énergie qui ne cesse pas. Avec un amour, un attachement qui est vraiment, qui nous sont vraiment attachés au Seigneur. Et j'aime bien la chanson. Merci Sandra, c'est bien choisi. Ce matin. Donc pour moi comme missionnaire, j'ai toujours des grands projets dans ma tête. Des projets hyper grands. J'étais encouragé par mon association aux États-Unis de rêver le plus grand possible. Parce que notre Dieu est assez grand. De mettre mes rêves en réalité. Et donc j'ai un rêve qui existe longtemps. Et ça, c'est de faire quelque chose à Clermont-Ferrand, de vraiment avoir un impact pour le Seigneur. Mais comment? Comment le faire? J'espère que vous aussi, que vous avez le même sentiment. Que le Seigneur fasse quelque chose avec nous. Que le Seigneur fasse quelque chose avec cette Église. Que cette Église soit la lumière et le sel. C'est donc Clermont-Ferrand en besoin. En fait, de tourner même nos vies, cette Église, la vie dans laquelle nous habitons, tourner en sens dessous-dessous. Regarde avec moi en Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, on va lire les premiers 9 versets. Actes 17, verset 1 à 9. Nous faisons particulièrement attention à le verset 6. Donc ici, c'est Paul et Sylla qui sont à Thessalonique. Donc Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et Paul y entra, comme son habitude, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Sylla. Ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restaient incrédules, prirent avec eux quelques verrines qui traitaient sur les places provoquèrent des attroupements, pardon, et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers les peuples. Ne les ayant pas trouvés, ils traînent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les accueillit. Ils agissent tous contre les édits, de l'empereur, en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne rachèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Donc, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, donc ils n'ont pas trouvé Paul et Silas. Ils traînent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville. Ils crient, c'est ces gens-là qui ont bouleversé le monde. Donc ils ont eu une réputation. Et cette accusation portée contre cette église, ces gens, cette église locale, ces gens pendant le premier siècle, qui étaient qu'ils avaient bouleversé le monde. Donc c'est plutôt négatif dans le contexte. Mais comment ils ont bouleversé le monde? En annonçant la bonne nouvelle, en faisant des disciples. Ils ont tout changé. Et quel témoignage! Quel témoignage de la puissance et de l'influence de l'église locale! Ils sont sortis avec un message de l'Évangile qui était fondé uniquement sur les Écritures et habilité par l'Esprit de Dieu. Et quels sont les résultats ici? Ils ont vu des gens sauvés, des vies changées. Et tous ont ressenti l'impact de leur ministère. En fait, selon le semeur, la traduction de le semeur, qu'il est dans la traduction anglaise, qui souvent à ce passage qui dit ils ont bouleversé le monde. Et le plus souvent traduit comme le semeur l'a traduit, ils ont mis le monde entier sans dessus dessous. Ils ont complètement changé. Et moi je trouve que c'est une expression intéressante parce que cette expression elle parle de faire bouger les choses. Les choses vont changer. Qu'on ne reste pas toujours tranquille, dans le même sens. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut que nous bougions. Il ne le faisait pas avec des manifestations. Il ne changeait rien avec des grèves. Mais il le faisait par la proclamation fidèle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons une dette, une grande dette de l'Église, de la première Église, cette Église primitive. Parce qu'ils évangélisaient le monde. Et pour eux, la grande commission, la proclamation de faire des disciples qui feront des disciples n'était pas une option. Et parce qu'ils étaient fidèles, nous avons le message de la vérité aujourd'hui. Donc, pour ces gens, quelles étaient les caractéristiques de ces premiers chrétiens? Et soit-il possible que nous, aujourd'hui, que nous vivons comme premièrement, ils étaient vraiment en feu pour Dieu. Dans plusieurs endroits dans la Bible, Dieu et le feu sont liés. Dieu est représenté par un feu. Comme dans le 12e chapitre d'Actes, le jour de Pentecôte, où des langues qui semblaient de feu leur apparut, séparés les uns de les autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. On a des miracles de Pentecôte, les prédications de Pierre, et puis les 3 000 qui sont sauvés. Mais les événements sur le jour de Pentecôte, pour moi, et beaucoup de choses sur le jour de Pentecôte sont mal comprises. Souvent, l'objet de ce jour, c'est que beaucoup, ont parlé en des langues différentes. Et oui, c'est vrai que c'est un miracle. Dieu a permis aux gens de comprendre dans leur propre langue. Mais pour moi, ça, ce n'était pas le miracle de la Pentecôte. Le miracle de la Pentecôte était qu'un groupe de gens qui semblaient battus et découragés il y a quelques semaines avant, quelques jours avant, les gens qui se sont cachés avec des portes fermées. Regarde avec moi, Jean. Je recoupe tout de suite. Jean chapitre 20, chapitre 20, verset 19. Donc on lit la résurrection de Jésus-Christ. Et en verset 19, en chapitre 20 de Jean, c'est écrit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient, rassemblés, étaient fermées, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Ils sont tous cachés avec des portes fermées, en tremblant, en ayant peur des chefs des Juifs. Donc pour moi, le miracle de la Pentecôte, c'est que ce groupe de disciples, qui ont tellement de peur, ils ont reçu le Saint-Esprit, et par sa puissance, ils prêchent ardemment et à déclarer ardemment l'évangile à tous les peuples. Ils ont fait les disciples. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a le résultat. En Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 personnes. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? 3 000 personnes, tout à coup. Oh! Pour quelques-uns, ça donne oh! Plutôt quelque chose que oh! Qui est vraiment exigeant. Mais pour les autres, ça donne un peu de peur. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 000 personnes? Mais ce même Dieu qui a fait ce miracle pendant le jour de Pentecôte pour le faire aujourd'hui. Ils ont un désir, c'est un feu pour Dieu. Est-ce que ce que cela signifie d'avoir un désir absolu pour Dieu, d'être un feu pour Dieu? Premièrement, il ne suffit pas de savoir toutes les doctrines, il ne suffit pas de prêcher toutes les bonnes nouvelles, il ne suffit pas seulement de croire ce que la Bible enseigne. En Hébreux, chapitre 12, verset 29, c'est écrit que notre Dieu est en effet un feu dévorant. Donc, être en feu pour Dieu signifie que nous sommes totalement, complètement, tu peux mettre n'importe quel adjectif que tu veux, mais que nous sommes totalement consumés par lui. Toutes nos pensées, toutes nos actions, que chaque partie de notre vie doit être conduite par lui. C'est pas Jésus, je te donne mon cœur, on se le chante souvent. Je te donne ma vie, sauf. Ceci, cela. Si nous sommes complètement honnêtes, aujourd'hui, C'est vrai. On chante souvent, Jésus, je te donne ma vie, sauf ceci et cela. Moi, je le garde. Mais chaque partie de notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Et je crains qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui jouent leur rôle aujourd'hui. Il arrive, comme Sandra dit, avec des souris. À l'intérieur, ils sont complètement morts. Il a des déceptions. Des cœurs qui sont lourds. Trop souvent, notre association avec l'Église du Christ est devenue en commodité. Oui, si l'Église me convient, si l'Église convient à mes besoins particuliers d'aujourd'hui, alors je suis là. Je serai présent. Je ferai partie de cette Église. Mais malheureusement, nos vies deviennent encombrées, occupées par autre chose qui nous éloigne de Dieu. Et trop souvent, nous sommes consumés, mais pas par Dieu. Par les soucis, par les autres choses. Nous permettons les soucis du monde étouffés. L'influence, les puissances de la parole de Dieu dans nos vies. En Marc, chapitre 4, verset 19, c'est la parabole du semeur. Jésus dit, mais les préoccupations de ce monde, la trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans les caractéristiques de ces premiers chrétiens, ils étaient un feu pour Dieu. Ils sont un désir absolu pour Dieu. Deuxièmement, ils ont trouvé une vraie communion en Jésus-Christ. Quand on va un peu plus loin dans le deuxième chapitre des Actes, on trouve en verset 42 qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La première église était une combinaison inhabituelle. Il y avait des pêcheurs, des collecteurs des impôts, des anciens membres du Sanhédrin, des gens, on peut dire, ordinaires, des prostituées. Mais pourtant, avec toute leur diversité, ils ont trouvé une véritable communauté. Et comment ils ont trouvé, c'était autour de la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu, autour de ces bonnes nouvelles que Jésus est venu afin de nous sauver. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et j'espère que chaque fois que vous pensez que, wow, Jésus est venu me sauver, que cette vérité vous fait sourire. Vous pensez, wow, combien de même. Et notre Église d'aujourd'hui n'est pas si différente que l'Église, que cette première Église. Nous avons été divisés par nos origines, notre patrimoine. Peut-être nous avons été divisés par notre saturation économique, par nos préjugés personnels. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous sommes liés dans l'amour de Jésus-Christ.
quand je regarde, je pense, waouh, combien de paix. Combien de paix différents. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que malheureusement, aux États-Unis, on est, j'ai envie de dire un peu plus, mais beaucoup plus divisé, en fait. On ne trouve pas toutes les nations dans une église. Et c'est triste. Parce que pour moi, l'église en France, cette église, c'est une tout petite représentation du paradis. Toutes les langues, toutes les nations, tous les gens, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, tous sont rassemblés, sont assemblés et sont liés par l'amour de Jésus. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous sommes liés ensemble dans l'amour, pas seulement par notre amour pour le Sauveur, mais par notre amour fraternel, pour notre amour pour les uns et les autres, notre amour pour nos frères et sœurs ici. Et Jésus, cet amour est important parce que Jésus nous rappelait que ce serait le moyen par lequel le monde nous identifiait comme ses frères et disciples. En Jean, c'est écrit, c'est le mot de Jésus, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et avec ce type de communion, avec ce type d'amour, nous aussi, nous pouvons tourner le monde sans dessous. Eric, la semaine dernière, a parlé de des gens qui sont complètement éloignés dans le premier cercle. La foule et ces gens cherchent. Je crois qu'ils vraiment cherchent un lieu, un endroit, une église où les membres se préoccupent les uns des autres. Et tout le monde, si vous êtes croyant ou pas, il y a quelque chose qui est dans nous tous, qui nous pousse à la communion, qui nous pousse d'être partie d'une communauté. Et si nous avons vraiment cet amour les uns pour les autres, c'est ce qui va avoir un impact, un vrai impact dans notre église, dans nos vies et dans ce monde. La troisième caractéristique qui est un peu comme le premier. Caractéristique des premiers chrétiens, que c'était un feu pour Dieu. Ouh, je sais que ça va arriver. Que c'était lié. Troisièmement, ils ont été entièrement remis à Jésus. En Actes chapitre 4, versets 18 à 20. C'est écrit alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean lui répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Et notez le libellé du verset 20. Christ leur avait ordonné de prêcher, de partager la bonne nouvelle, de faire des disciples. Et comment pourraient-ils faire autre chose? Pour eux, pour Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'autre option. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont pris la Grande Commission au sérieux, même face à l'opposition du gouvernement. Ils ne pouvaient pas imaginer faire autre chose que de partager la bonne nouvelle, que d'aimer les uns les autres. Ils ont posé tout sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient liés à l'autel pour ne pas fuir. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu demande quelque chose de différent. Et il nous appelle d'être un sacrifice vivant. Un sacrifice volontaire, on peut dire. Des gens, des croyants, qui se lèvent chaque matin en disant, en se regardant dans le miroir, c'est pas toi qui es en charge, c'est lui. Comme Sandra a dit tout à l'heure, concernant son nom, Mike, Sandra, vous n'êtes pas le maître, parce que c'est pas notre vie. Et si vous êtes croyant, c'est pas votre vie, c'est la vie du Seigneur. Ils sont tous à lui. Ils ont posé tout sur l'autel. D'être des sacrifices vivants. Et d'être des sacrifices vivants, de faire des disciples qui feront des disciples, ce n'était pas seulement quelque chose dans un cantique, quelque chose qui est une philosophie ou un simple projet. C'était leur vie. Et quelque chose qui doit être notre vie aussi. Et pour certains dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, d'être un sacrifice vivant signifie des pertes financières. Pour les autres, l'emprisonnement. Encore pour les autres, d'être un martyr. Et nous, des fois, je me demande pourquoi cette première église, sans bâtiment, pas de son nom, pas d'enseignement pour les enfants, pas de musiciens qui sont plein de talent, comment ils sont si efficaces? Que 3000 gens soient sauvés, qu'ils ont tourné le monde au sens dessus-dessous. Parce qu'ils sont complètement liés au Seigneur. Ils ont tout donné à lui. Je ne veux pas que nous soyons indifférents. Et que Dieu qui nous délivre de notre indifférence. Parce que des fois, on dit, ah, bon, d'accord, oui, je suis chrétien, je suis très heureux, je suis sauvé. Est-ce que je peux partager mon expérience avec Jésus? Ça vous intéresse?
Exact.
Mais c'est trop souvent comme ça. Pourquoi on ne pas dire, oui, je suis chrétien, je suis très fier d'être chrétien. Je suis très fier parce que le Dieu qui a créé tout le monde habite en moi. Et en plus, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ça vous intéresse? Ouh! C'est beaucoup de défense.
N'aie pas peur d'être hyper exigé par le Seigneur. Quand vous qui me connaissez, c'est que, oui, de temps en temps, pas à chaque fois, je vais au Master Michelin, au stade, où les gens sont complètement fous, hein. Et pour mes amis qui viennent des États-Unis, qui sont présents ici, ce matin, je connais bien le pouvoir de sport. Et qu'est-ce que les gens font? Ils prennent le visage, ils prennent tout, les maillots, des chaussures en couleur de leur équipe. Et la voix des chants. Et un chant qui arrive au marché Michelin, qui dit, c'est chaud, bouillant, c'est Montferrand. Mais, est-ce qu'on peut mettre cette petite phrase, ce petit chant, et l'applique à nos vies chrétiennes. Que ma vie est chaude. Ma vie boue pour le Seigneur. Ma vie est chaude et bouillante pour le Seigneur. Je suis pour Jésus. Plein d'énergie. Plein de bonheur. Oui, je sais que quelques-uns de vous me regardent comme c'est fou cet Américain. Ce missionnaire, oh là là. Mais pourquoi pas être passionné par les choses de Jésus? Pourquoi pas? Trop souvent, nous voulons que la puissance de Dieu. Nous voulons la puissance de Dieu, pardon, sans payer le prix de cession. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous pouvons faire une différence dans ce monde où nous vivons. Nous pouvons avoir une influence pour le Christ dans la vie des autres. Mais nous devons être un feu pour Dieu, en communion avec les autres, et totalement engagés à faire la volonté de notre Père. Ce matin, le choix est le nôtre. Que ferons-nous? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité envers nous. Et oui, Seigneur, combien tu es grand. Et Seigneur, tu nous as tout donné. Et Seigneur, je te prie, que nous puissions être en feu pour toi, que nous puissions être complètement liés à toi, Seigneur, que nous puissions donner tout, toutes choses, Seigneur, soit à toi. Ô Seigneur, merci. Merci Seigneur.
au nom de Jésus. Amen.